Ils mettent la clé sous la porte, ça y est?
Non.
Leurs créanciers s'impatientent?
Non, ils sont...
Ils lancent une nouvelle gamme de produits pour le micro-ondes? Quoi? Qu'y a-t-il?
Ils ont de nouveau du succès.
Comment est-ce qu'ils pourraient remonter la pente?
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau grand format dont va déguster l'émission qui nourrit le corps et l'esprit jusqu'à 11h. Au menu de ces 2 heures de direct, ces chefs et ces restaurateurs qui réinventent leur métier à l'heure de la crise sanitaire. Comment ils se réorganisent pour survivre ou pour aider? Et quelles leçons ils tirent pour l'avenir de la restauration et pour l'avenir de nos façons de consommer? On en parle avec deux chefs qui ont transformé leur activité et qui sont aussi engagés dans des actions solidaires. C'est Laurent Petit, le chef 3 étoiles du Clos d'Essence à Anne-Sylvieux en Haute-Savoie, et Amandine Chéniaud, chef du restaurant Pouliche dans le 10e arrondissement de Paris. Et puis en deuxième heure, je vous propose une conversation avec un philosophe très porté sur la chose culinaire.
Moi, j'ai eu la chance d'aller chercher le pain quand j'étais gamin le matin et que, avant d'aller à l'école, on me demandait d'aller chercher une baguette. Je rentrais dans une boulangerie où il y avait un parfum extraordinaire. Et c'est bon de savoir dans sa bouche qu'on retrouve le champ de blé, qu'on retrouve le four à pain, qu'on retrouve ces goûts-là et ces saveurs-là qui nous remontent dans le nez.
C'est Michel Onfray. Qu'est-ce que le philosophe Michel Onfray a dans le ventre? Comment repenser notre rapport à l'assiette en cette période de confinement? On va poser la question à celui qui réfléchit beaucoup à l'alimentation et à la cuisine depuis la parution de son premier essai en 1989, Le ventre des philosophes, critique de la raison diététique. Si vous avez, amis auditeurs, des initiatives de restaurateurs, des recettes de confinement ou des questions à notre invité de la deuxième heure, Michel Onfray, Bianca et Théo sont au standard pour accueillir vos témoignages aux 01 45 24 7000. Et puis on retrouvera tout au long de cette émission nos chroniqueurs confinés. Celle qui m'accompagne chaque dimanche depuis son domicile, c'est Elvira Masson, et notre chroniqueur vin, Antoine Gerbel. Et puis comme chaque dimanche, quelques voix bien connues de France Inter mettront leur grain de sel dans les marmites dont va déguster. Vincent Josse nous fera goûter et sentir, vous allez voir, les asperges du petit Marcel Proust. Laurent Delmas nous mijote une séance de cinéma gourmand. Et Mathieu Conquet nous fera déguster ses accords mais émus. Retrouvez d'ores et déjà toutes les infos, les recettes de ce On va déguster XXL sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de donner la parole à nos chefs, Laurent Petit et Amandine Chéniaud, on retrouve comme chaque dimanche Elvira Masson qui met en lumière une action solidaire. Bonjour Elvira.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous. Alors on assiste ces temps-ci à la mobilisation absolument incroyable des chefs, des gens du métier, on va en reparler au long de l'émission d'ailleurs, qui sont capables d'envoyer 300, 500 ou encore plus de repas par jour pour les soignants, pour les associations d'aide aux sans-abri. Mais alors évidemment, on peut pas tous produire de telles quantités, et surtout pas dans les conditions sanitaires qu'il faut respecter. Alors si vous cuisinez un peu chez vous et que vous avez envie et la possibilité de faire 2, 3, voire 5 parts en plus, il y a une plateforme géniale qui vous permet de mettre cet effort au profit des sans-abri. Ça s'appelle Pour eux le Move, www.poureuxlemove.com. Ça a été mis en place le 20 mars et c'est accessible si vous êtes à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Rennes. Le principe est très simple. Vous vous inscrivez, vous cuisinez chez vous, vous indiquez le contenu du panier que vous pouvez proposer. Vous le faites quand c'est prêt, hein, quand votre repas est prêt. Donc vous ne faites pas quelque chose qui doit se servir brûlant, bien sûr. Vous pouvez ajouter des choses dont on manque cruellement dans la rue. On n'y pense pas forcément, mais des chaussettes, un peu de lecture, une bouteille d'eau. Et un coursier à vélo réceptionne le panier repas, en bas de chez vous, bien sûr, et le livre à un sans-abri au fil de ses maraudes. La première fois, vous fournissez le contenant, la suivante, on vous en redonne. À Paris, ils en sont à 400 repas servis par jour, par 120 livreurs à vélo. Pareil à Lille, et ça prend de l'ampleur un peu partout. Depuis le 20 mars, ce sont ainsi 25 000 repas qui ont été distribués. Je vous rappelle le site, www.poureuxlemove.com.
Et la modestie vous interdit de dire que vous êtes vous-même engagé dans cette action, Elvira Masson?
Oui, j'ai testé la plateforme il y a quelques jours et j'ai préparé comme ça 2-3 paniers. Je vais continuer la semaine prochaine et ce week-end.
Et un coursier à vélo vient récupérer effectivement ses parts en plus que vous cuisinez.
Oui.
Très belle initiative.
C'est tout simple.
Pour eux, le move.com, on a mis de toute façon toutes les informations en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et Elvira Masson, on vous retrouve tout au long de cette émission.
Et puis je voudrais... avec joie.
Merci Elvira. Et puis je voudrais vous signaler l'initiative solidaire de la journaliste et autrice Laurence Benahim, à qui l'on doit notamment en 2013 un très beau récit, Le plus bel âge, rencontre avec des octogénaires affranchis aux éditions Grasset. Et bien justement, depuis le début de la crise sanitaire, Laurence Benahim a voulu venir en aide au troisième âge en organisant une opération baptisée SOS EHPAD, une vente caritative au profit des EHPAD, durement touchés, on le sait, par le Covid-19. Elle s'est activée pour rassembler 200 lots qui sont mis aux enchères en ligne en ce moment par la Maison Tajan. Alors ce sont des dons d'artistes, de créateurs, mais aussi de grands noms de la gastronomie qui s'engagent donc dans cette opération. Entre une guitare électrique offerte par la chanteuse Kerenan, un atelier d'écriture sur le thème de la mémoire avec Leïla Slimani ou un maillot dédicacé par le joueur de foot Kylian Mbappé. Eh bien, on trouve aussi un cours de pâtisserie avec Pierre Armé, un dîner pour 4 personnes offert par Alain Ducasse ou encore de grands millésimes de plusieurs maisons de champagne. Cette vente se déroule en ligne jusqu'à demain 15h. Alors évidemment, ce sont des lots qui sont très très loin d'être à la portée de toutes les bourses. Mais si de généreux donateurs passent par là, les fonds récoltés iront à SOS EHPAD portés par la fondation Recherche Alzheimer. Cette émission a été préparée avec l'aide précieuse de Nadia Chougui et c'est Laurent Thomas qui l'a réalise en direct avec Mathias Saléon à la technique. Pierre de Certaines nous aide à la coordonnée. Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale. Et Jean-Baptiste a justement choisi Barba Gallo, Ne me réveillez pas. Il va pourtant falloir se réveiller un peu sur France Inter. On a bien reconnu une boucle de la BO de Mon nom et personne, signé Ennio Morricone. Crise sanitaire, comment les chefs et les restaurateurs réinventent leur métier? Alors pour continuer à faire bouillir la marmite, mais aussi, on va le voir souvent, dans une démarche solidaire. Et comment ils imaginent, nos amis chefs, cuisiniers, cuisinières, l'après-crise sanitaire? Et bien pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir, à distance, Laurent Petit, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous êtes le chef du Clos des Sens à Anne-Sylvie en Haute-Savoie. Vous avez obtenu 3 étoiles au guide Michelin en 2019. Vous vous êtes engagé depuis plusieurs années dans ce qu'on pourrait véritablement appeler une révolution écologique. Et vous appelez déjà, on va le voir, les chefs et les cuisiniers de France à une prise de conscience collective, notamment dans nos relations avec nos producteurs. Nous allons en parler. Et nous sommes également en compagnie d'Amandine Chéniaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef de Pouliche, dont vous nous rappelez Exactement. L'adresse, dans le 10e arrondissement ?
11 rue d'Anguin, dans le 10e.
Et ça tombe bien parce que c'est un restaurant que vous avez converti, après les 15 premiers jours du confinement, en petit marché, épicerie. Vous y vendez des produits en circuit court, issus, dites-vous, d'une agriculture propre. Et bien justement, on commence avec vous. Comment la cuisinière s'est transformée en épicière ?
Ah ah. Quand il y a eu l'annonce là du 14 mars, il a fallu 2 jours pour vider le restaurant, réorganiser les frigos, enfin lessiver la chambre froide, etc., enfin mettre tout le restaurant à l'arrêt. Et puis après, j'ai suivi les consignes de confinement vraiment sérieusement chez moi, donc pendant 15 jours. Et en fait, j'avais le cerveau qui turbinait, j'arrivais pas à dormir. Mmh. Et je me suis dit que il y avait quand même peut-être quelque chose à faire. En fait, juste avant le confinement, moi, j'ai été m'approvisionner chez Terroir d'Avenir, où on trouve vraiment des super produits de qualité.
Oui, et du puis, côté de la rue du Nil, dans le quartier du Sentier, 2e arrondissement de
ouais.
Paris.
Voilà. Après, moi, il a fallu que je me nourrisse, et puis je me suis rendu compte que il n'y avait pas tant d'offres que ça, en fait, en termes d'alimentation de qualité à Paris. Et puis j'ai eu un de mes fournisseurs, un de mes producteurs au téléphone qui se retrouvait vraiment dans la panade, parce que lui, il bosse avec 80% de restaurants. Il n'a pas l'habitude de bosser, d'avoir un point de vente directement dans son exploitation. Il fait pas de marché, il n'a pas d'autres alternatives en fait. Mmh. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un pont en fait entre la population parisienne qui a besoin de et qui est sensible déjà à ces problématiques-là. Et puis en même temps, les maraîchers, les pêcheurs, les agriculteurs qui se retrouvent un peu le bec dans l'eau, comme nous, à l'arrêt, à cause de ces mesures. Et de là est venue cette idée. Après, il a fallu s'organiser un petit peu, me renseigner déjà, savoir si c'était possible, si c'était autorisé, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, etc., pour garantir la sécurité de tout le monde. Et assez rapidement, en fait, au bout de quelques jours, j'ai réussi à démarrer tout doucement au début avec 3-4 producteurs. et puis ça a fonctionné. Et puis maintenant, j'en ai quasiment une vingtaine.
Et un restaurant, sur le plan réglementaire, sur le plan de la loi, a le droit de se transformer en épicerie, en commerce ?
C'est de la vente à emporter, en fait.
D'accord.
Donc moi, c'est prévu dans mon bail. Je me suis renseignée. Pareil pour les alcools, j'ai une licence 4, donc ça nous autorise une vente à emporter aussi. Mmh. Donc voilà, je reste dans les clous de mon bail et de la législation, donc il n'y a pas de souci.
Donc cela veut dire aujourd'hui que votre clientèle de quartier vient acheter des produits. Alors beaucoup de produits locaux d'Île-de-France, du Val-de-Loire, du Lot, vous nous l'avez dit. En tout, c'est combien de producteurs dont vous vendez les marchandises de saison ?
Aujourd'hui, j'en ai à peu près une vingtaine. Mmh. Alors, il y a certains acteurs comme Laurent Berruyer et Christophe Latour qui, eux, font une grosse gamme de produits, entre guillemets. Laurent, il est dans le Val d'Oise, à côté de Pontoise.
Donc, il cultive des légumes.
Voilà, il fait vraiment du maraîchage. Là, il a des très beaux légumes feuilles, il a des blettes, des radis, les salades sont magnifiques. Mmh. Il me fait de la ciboulette qui est superbe, là, qui commence à fleurir, qui est top. Laurent et Christophe, lui, il est dans le Lot.
Oui,
donc
Christophe
Latour. Il a un climat complètement différent. Il fait 30 degrés depuis quasiment 4 semaines. Donc là, il commence à avoir timidement les premières tomates, les premières courgettes, etc. quoi. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils sont hyper complémentaires l'un et l'autre. Et à côté de ça, j'ai des tout petits. J'ai la ferme de Montaquois qui est à Soissy-sur-École dans le 91. Elle fait juste de la farine.
Travail formidable à base de farines anciennes, hein, c'est ça ?
Exactement, que des blés anciens.
Dans l'Essonne.
C'est à la Meule. Voilà, il y a Thierry Breton qui me fait le pain tous les jours. J'ai un ramasseur, Fabrice Gabriel, qui m'a fait de l'ail des ours. Donc lui, il fait très très peu de quantité et très peu de produits. La semaine prochaine, il va faire des bourgeons d'épicéa. Voilà, donc c'est des profils différents.
Et le succès est au rendez-vous?
Ouais, alors au début moi j'ai commencé timidement en me demandant si les gens allaient venir, et puis c'est aussi pour ça que je faisais pas beaucoup de quantité, parce que j'avais peur d'avoir des invendus et d'avoir de la perte, d'avoir de la casse. Et aujourd'hui en fait on a suffisamment de débit pour pouvoir faire rentrer d'autres personnes sur le marché, donc c'est plutôt chouette. Ouais, puis je vois les gens revenir, ils partent avec le sourire, je leur glisse une petite recette.
Je crois même que vous cuisinez des cookies qui ont très bonne réputation.
Tous les matins, je fais une petite tournée de cookies, ouais, effectivement, que je vends après la journée. Donc voilà, ça fait un vrai lieu de vie en fait du quartier. Et moi, c'était très important pour moi aussi, au-delà du côté chaîne alimentaire, c'était aussi ce côté social. Voilà, quand je me suis installée, j'ai voulu vraiment m'inscrire dans la vie de quartier. Et aujourd'hui, je continue à être un point de repère pour les habitants du 10e.
On va donner la parole dans un instant à Laurent Petit, qui lui aussi a déployé un projet extraordinaire du côté de la Haute-Savoie. Mais juste une question, Amandine Chéniaud. Alors, pour les produits d'Île-de-France ou le pain de Thierry Breton que vous évoquiez, qui fait du pain dans le 10e arrondissement, à quelques rues de chez vous, j'imagine que l'acheminement n'est pas compliqué. Mais lorsqu'il faut faire venir du Val-de-Loire ou du Lot des produits, c'est pas un casse-tête logistique ?
Si, c'est un vrai casse-tête. Ça a été encore plus compliqué en fait au début du confinement, parce qu'il y a eu énormément de transporteurs qui se sont mis à l'arrêt total. Et après la dernière annonce du président, quand il a annoncé la date du 11 mai, il y a pas mal de personnes qui ont pris conscience que le confinement allait durer plus que ce qu'ils imaginaient au début, et donc ils se sont remis à travailler petit à petit. Même si aujourd'hui les frais d'acheminement, c'est quand même pas négligeable, et c'est vraiment un énorme coût en fait qu'on est obligé de répercuter sur les prix de vente. Aujourd'hui c'est un vrai problème, ça c'est certain.
Bien sûr, on sait que évidemment les prix augmentent, ça concerne d'ailleurs aussi les grandes surfaces, hein. Je crois que c'est 9% d'augmentation pour le prix des fruits et légumes en grande distribution depuis le début du confinement. Vous restez évidemment avec nous, Amandine Chéniaud. On va discuter avec quelqu'un, justement un chef 3 étoiles qu'on apprécie beaucoup, qui a engagé une vraie révolution écologique au sein de son restaurant 3 étoiles, qui est au-delà même d'un créateur culinaire, qui est quasiment un visionnaire. C'est Laurent Petit. Et vous avez inauguré, Laurent, hier, la première édition de votre marché des producteurs. Vous aussi, vous avez établi un pont avec les producteurs qui vous sont chers, avec lesquels vous entretiez une relation humaine. C'est quoi le bilan que vous tirez de cette première édition de votre marché qui se tenait hier dans le jardin de votre restaurant ?
Écoute, un grand moment, je crois que c'est une des plus belles journées de ma vie.
Ah, carrément.
Franchement, c'était énorme. Il y avait des ondes positives incroyables de tous les côtés, et des acheteurs et des producteurs et de nous, l'équipe du Clos d'Essence, à les accueillir. C'était énorme.
Racontez-nous, Laurent, comment ça s'est passé, justement.
Moi, l'idée, elle est partie justement d'Amandine, hein, qui, j'ai entendu sur notre radio qu'elle mettait en place cette chose-là.
Et d'accord.
Puis, Moi, je suis pas du tout dans l'idée de la vente à emporter. J'estime que c'est un autre métier, que je ne sais pas forcément le faire, qui ne m'intéresse pas forcément. Je suis plus ou moins inquiet sur les règles sanitaires, donc j'ai pas trop envie de mettre le doigt là-dedans. Même si hier, on a fait ce qu'on appelle le plat du samedi pour agrémenter ce marché. Mais la grande idée, c'était, moi, tu sais, ce qui m'est vraiment cher, c'est ce lien humain. Hein. Pour moi, il y a l'humain et la terre. Il y a rien d'autre. Hein. La gastronomie, c'est ce binôme qui devrait vraiment être martelé, exister, et qui, je crains, ne soit pas encore vraiment totalement ancré dans la
tête. On va en parler sur l'après et justement l'attitude des cuisiniers.
Mais hier, c'était, rassembler, ne serait-ce que sur un banc de poissons qui faisait 6 mètres, mes trois pêcheurs, Vincent, Manu et Henri, mes trois pêcheurs de mes trois lacs, ne serait-ce que ça, cette image, les poissons étalés sur un banc comme ça de mes trois pêcheurs, rien que ça, c'est du jamais vu, c'est énorme. Ça parlait beaucoup à tout le monde. C'était dingue, c'était vraiment dingue, et tout ça dans notre jardin, tout ça avec un soleil incroyable, hein, qui dure depuis 6 semaines.
Ouais.
Le jardin, il explose, mais c'était vraiment magique.
Et les habitants d'Annecy, Laurent Petit, étaient au rendez-vous ?
Alors, ils étaient plus qu'au rendez-vous, en effet. Moi, j'étais un peu quand même inquiet. Hein. On a juste communiqué un peu sur les réseaux. Et ben, ces réseaux sociaux, ils ont du bon, quoi. C'était juste incroyable. On a 400 personnes qui sont venues, quoi. 400 personnes qui ont gambadé, qui ont pu se promener à travers le jardin. Et
en respectant, j'imagine, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui s'inquiètent quant aux mesures des gestes barrières, etc.
Bien sûr,
j'imagine que vous avez respecté.
Dans le respect des règles, il y avait une queue de 150 mètres carrés devant le restaurant à un moment donné. On faisait passer des gens un par un. Il y avait 10 producteurs, et donc on rentrait 10 personnes par 10 personnes, pour que chacun puisse être sur un stand.
Et Laurent Petit, alors c'est pas du chiquet, parce que vous n'avez pas exposé vos producteurs pour amuser la galerie, entre guillemets. D'abord, ce sont des producteurs exclusivement locaux, tous issus d'une agriculture paysanne.
Exactement.
Et biologique, puisque ce sont des valeurs qui vous tiennent à cœur. Donc c'est des gens qui sont plus que des producteurs, ce sont vos amis. Citez-en quelques-uns. Alors moi j'en connais quelques-uns. Il y a évidemment quelqu'un que nous avions reçu dans cette émission, c'est Sébastien Paulme pour le reblochon, un reblochon fermier biologique absolument phénoménal. Quand on a goûté son reblochon, on se dit qu'on n'en a pas beaucoup dans sa vie.
T'avais adoré, ouais. Ah, j'ai des gens incroyables comme Rudy Loberton qui me fait les endives et notamment la racine d'endive.
Oui.
Voilà, qui est devenu le plat mythique de ma maison, quoi. Voilà, et j'avais quelqu'un comme Adrien Corneille qui est un maraîcher bio dans ce qu'on appelle les jardins de l'Albanais. C'est un peu, si tu veux, c'est un peu le potager d'Annecy, quoi. Vraiment, c'est ce qui est bien à Annecy, c'est qu'on a ce côté piste aux étoiles entre guillemets avec le lac, mais on a un vrai cœur de métier, on a une vraie richesse maraîchère à Annecy, ce qui ne se sait pas, quoi.
Oui.
On appelle ça les jardins de l'Albanais.
Absolument.
Et vraiment, ce jeune, Adrien Corneille, m'expliquait, par exemple, des choses très probantes. Donc, il fait les marchés. Mm-hmm. En effet, il était très content. Le marché du samedi a été supprimé à Annecy. Il était très content d'être au milieu de notre jardin. Et il m'expliquait, pourtant, ce gars fait un travail incroyable. Par exemple, il y a en ce moment que 8-9 produits. Dû à la saison, bien sûr, parce qu'on est en pleine terre, on est en serre froide, et m'expliquait que malgré ça, il y a la queue devant son banc tous les samedis matins normalement sur le marché, et il m'expliquait que malgré ça, pour te dire où on en est dans l'état d'esprit, on lui demande des tomates, simplement parce qu'aujourd'hui il fait beau, quoi. Et alors il s'est amusé à emmener sur son banc un plant de tomates, pour expliquer, pour montrer, pour démontrer,
pour que ça
soit très lisible.
Qu'elle n'est pas encore née,
voilà.
La tomate.
Il dit la tomate aujourd'hui à Annecy, sur le bassin annécien. Messieurs, dames, la tomate, c'est ça. Voilà.
Le syndrome,
Au mois d'octobre, quand les gens ne penseront plus aux tomates, nous, elles seront magnifiques.
Et oui.
Bien sûr, elles vont arriver au mois de juillet, début août, et au mois d'octobre, en fin de saison, à l'automne, là, quand l'automne est magique. Eh ben, la tomate chez nous, elle est merveilleuse.
Mais il est vrai que le syndrome de la tomate mozza, hein, frappe quand il fait bon en général. Et je crois que vous avez préparé, vous avez d'ailleurs, vous l'avez évoqué précédemment, vous avez préparé un plat à emporter, évidemment lié directement à votre terroir savoyard. Qu'est-ce que c'était?
Ouais, bien sûr. Écoute, toujours mon cheval de bataille, hein, la custrée végétale. Hein, tu sais que je ne fais que des poissons de lac. Je ne travaille qu'avec mes maraîchers autour. Chez moi, il n'y a pas de viande. Voilà, il y a une protection quand même du monde animal, que des produits sauvages avec nos poissons de lac. Eh bien, forcément, on a fait une blanquette de poissons de lac.
Ah.
Voilà, on avait du chevesne, on avait de la ferra, on avait de la perche. Ok, on avait de la truite.
Du brochet.
On avait du lavaret, on avait du brochet. Tout ça avec les petits légumes du jardin, les petites poirettes en ce moment. Les poireaux, ils sont gros comme mon petit doigt, là. On a mis les petites poirettes du jardin dedans.
Oh là là.
Et tout ça avec les aromates. Les aromates sont déjà en pleine expansion. Les fleurs de soja ananas. C'était dingue.
En fait une cocotte à emporter qu'on réservait. Pour quel prix par personne?
Alors, on était à 18 euros. Mm-hmm. Voilà, moi, je suis toujours un côté social-démocrate.
On n'est pas là
pour faire de business, c'était
pas
l'idée.
Pour une blanquette 3 étoiles en plus. Bon, bien sûr.
Voilà,
et généreuse.
18 euros.
Généreuse.
Et si on réussit à faire le marché la semaine prochaine, on va faire la bouillabaisse du lac.
Alors justement,
j'ai un petit producteur de safran.
Justement, Laurent.
La bouillabaisse du lac,
Laurent,
avec
Petit,
les fenouilles du jardin.
Est-ce qu'on peut annoncer une deuxième édition de votre marché au Clos d'Essence à Annecy-Lieu?
Eh ben écoute, on est suspendu à une décision administrative, on attend l'accord du préfet. Voilà, on a eu l'accord pour ce samedi, on espère l'avoir. On aimerait faire encore deux samedis, les deux samedis du confinement. Voilà, pour donner toujours un coup de main à nos producteurs. Et je te dis, c'était tellement magique, tellement merveilleux, que j'espère que le préfet va nous suivre.
Très bien,
vous restez. Le maire est très très favorable et il s'en occupe.
Vous restez avec nous, Laurent Petit. Amandine Chéniaud, Qu'est-ce que ça vous fait d'être la source d'inspiration de Laurent Petit? Est-ce que vous constatez aussi de votre côté, effectivement, la satisfaction de vos clients qui peuvent renouer avec des produits de qualité, souvent de proximité?
Ouais, mais moi je trouve ça, enfin j'ai été surprise et agréablement surprise quand Laurent m'a appelé. Je trouve ça super quoi. Et je trouve qu'il y a, enfin après c'est une logistique et c'est une réorganisation et je pense pas que tous les restaurants soient capables de le faire effectivement. Mais je pense que quand on se pose comme un passeur. Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'on s'en fout en fait de savoir si le restaurant c'est le meilleur du monde. L'important c'est d'être là pour les gens. Et il a raison, Laurent, quand il dit c'est la terre et les hommes qui est importante. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. On est des passeurs, en fait, on est des passeurs de nourriture.
Ça vous donne des idées pour la suite, Amandine Chéniaud, sur votre façon de voir votre métier. Votre métier, c'est cuisinière. Vous avez travaillé dans des grandes maisons. Vous avez été formée par les plus grands. Désormais, vous vendez des légumes. Votre métier évolue. Je crois savoir aussi, parce qu'il faut le signaler quand même, vous prêtez votre cuisine toute la journée pour des gens qui travaillent pour Collectif Solidaire, qui consiste exactement. Justement à apporter des repas et des plateaux repas aux aides-soignants.
Aux hôpitaux, ouais. Au début je le faisais aussi, je fermais le petit marché à 14h, je faisais ma caisse et après je cuisinais pour les hôpitaux, puis au bout d'un moment c'était trop, donc j'arrivais pas, je terminais, il était 9h30, j'entrais chez moi, j'étais encore plus crevée que quand je faisais des services. Donc ça j'ai arrêté, mais effectivement je prête ma cuisine pour le collectif solidaire, de temps en temps je leur donne un coup de main, je leur file des cookies, eux ils m'aident de temps en temps aussi à décharger mes livraisons parce que c'est pas toujours évident, mais mon métier ça reste la cuisine. Après, je sais pas, on verra. De toute façon, on sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ni comment. Ouais. Donc peut-être que ce sera un maillon de transition avant de récupérer l'activité totale et aussi efficace que ce qu'on a pu avoir avant. On sait pas aujourd'hui de quoi l'avenir sera fait. Mais je pense que de toute façon, il est hyper important de se réinventer, d'être mobile et de pas rester braqué sur des schémas qu'on a pu connaître jusqu'ici, quoi.
Bien sûr. On donne la parole, restez avec nous, hein, chers invités. On donne la parole à Laurent qui est en Indre-et-Loire, oui. Du côté de Chédigny.
Oui, bonjour.
Bonjour Laurent, vous avez un message à nous faire passer justement sur une initiative. Ah mais oui, le Clos aux Roses, j'y suis allé, c'est un très chouette restaurant. Absolument. Avec un jeune couple à Chédigny, qui est par ailleurs le village d'Indre-et-Loire qu'habite notre chroniqueur légumes Xavier Mathias.
Tout à fait, tout à fait. À qui j'envoie tout de suite un salut amical. Donc oui, on a la chance d'avoir ce jeune couple de restaurateurs avec cette chef Armelle Croze, qui dirige donc le Clos aux Roses, qui nous offre depuis maintenant 2 semaines, tous les week-ends, des menus de plats à emporter, réalisés par ses soins bien évidemment, en binôme avec Julien, son époux.
Absolument,
et ça nous offre vraiment une pause extraordinaire tous les samedis et les vendredis et samedis. On a cette impression d'avoir le restaurant qui vient chez nous. On a la mission de présenter les plats. Elle nous guide par des photos sur la façon dont elle envisage la mise en place de ses assiettes. Elle nous donne des conseils bien sûr pour réchauffer, préparer les ingrédients, et elle nous a proposé ce week-end en plus un panier recette autour de l'asperge, et on était invité à confectionner tout simplement une charlotte aux asperges.
Oh voilà, une super idée, c'est la saison des asperges, on va en parler justement avec Amandine Chéniaud. Il y a beaucoup de fleurs, c'est très très fleuri justement hein, le Clos aux Roses en ce moment.
Oui, tout à fait. Chédigny est le seul village classé jardin remarquable. Ouais. Et du coup, Armelle profite du jardin curé qui a été réalisé 2 ou 3 ans entre autres, nous offrir de belles fleurs de bourrache que l'on peut mettre sur les assiettes, sur certains des plats qu'elle propose.
Merci Laurent pour votre témoignage fleuri. On y est très sensible, d'autant que j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce village et ce restaurant. Le Clos aux Roses en Indre-et-Loire. Merci beaucoup. Elvira Masson, le milieu de la gastronomie et de la restauration, on l'a compris, se bouge, réinvente son activité. Vous avez-vous une très belle initiative, une bonne idée à nous signaler du côté de Marseille?
Ouais, une initiative formidable. Ça s'est passé hier, donc à Marseille. Une 10aine de restaurants emmenés par la boîte à sardines. Vous savez, le restaurant poissonnerie du boulevard de la Libération dans le premier arrondissement, que vous connaissez, François-Régis. et par l'association de chefs Gourmet Méditerranée, ils ont organisé ensemble une moule frite partie hyper vertueuse. Ah. Le principe est le suivant. On commandait son panier de moule auprès d'un des 10-11 restaurateurs participants. Les commandes étaient centralisées par Fabien Rugy, le patron de la boîte à sardines, qui s'est mis en contact avec deux conchyliculteurs de la région, des producteurs de moule, notamment Jean-Christophe Giol, au Tamaris. Mmh. Et on parle là d'une filière très fragilisée qu'il faut soutenir. Il a commandé les pommes de terre à un producteur bio du Pertuis. Et les paniers de moules et de frites, alors je parle là de pommes de terre, plutôt de moules nettoyées et de pommes de terre à préparer soi-même, hein, ils n'ont pas fait tout le boulot. Ces paniers pour 4 personnes étaient à retirer hier dans les restaurants participant à l'opération. Ça coûtait 15 € pour 4 personnes, dont 2 € pour les points de vente participants, 2 € pour l'association Gourmet Méditerranée pour lui permettre de continuer à faire des repas pour les soignants des hôpitaux marseillais et pour des associations. Donc si vous faites les comptes, 15 moins 2 moins 2, il reste 11 € pour les producteurs de moules et de pommes de terre.
Eh ben voilà,
en quelques heures hier, c'est génial. Hein. Mmh. Ils ont écoulé 2 tonnes 100 de moules et 1 tonne 4 wow. de pommes de terre en 2-3 heures.
Et il va y avoir une autre édition ou pas, Elvira?
Oui, alors ils sont un peu en attente parce que c'est un peu compliqué à mettre en place et ils ont organisé ça de manière assez pressée, rapide. Mm-hmm. Ils vont renouveler l'opération samedi prochain ou le suivant. Ils ne savent pas encore. C'est à suivre sur la page Facebook du restaurant La Boîte à Sardines.
Très bien, merci pour cette formidable initiative marseillaise, chère Elvira. Laurent Petit de Annecy, 3 étoiles au guide Michelin. On a un peu le sentiment, et ce sera peut-être le mot de la fin pour imaginer un tout petit peu l'après-confinement, on a le sentiment que la crise sanitaire a eu pour effet, sans jeu de mots, de déconfiner paradoxalement les producteurs locaux. Est-ce que vous pensez que cette relation de se dire on a à 12 kilomètres de chez soi un producteur chez qui on peut éventuellement aller, dont on ignorait l'existence avant le confinement, est-ce que vous pensez que cette relation de proximité va devenir une relation durable, dans tous les sens du terme? Notamment aussi pour les cuisiniers.
Ouais, je pense que surtout les cuisiniers doivent reprendre le pouvoir. Je pense que le pouvoir, les cuisiniers, ils l'ont laissé aux logisticiens. Certes, on a besoin des logisticiens, mais il faut avant tout, comme je te disais, recréer ce binôme du producteur et du cuisinier. Ce que l'on a mis en avant d'ailleurs au Collège culinaire de France. Tu sais que depuis 2011, on a créé ce Collège culinaire de France. Aujourd'hui, c'est quand même 1800 restaurateurs qui sont, entre guillemets, associés à 900 producteurs. Mm-hmm. Ça, c'est un maillon essentiel. C'est le seul collectif indépendant avec... qui n'est marqué par rien, quoi. Mm-hmm. Ni le gouvernement ne nous aide, ni aucun sponsor de l'agroalimentaire. Mm-hmm. Donc je pense vraiment, moi, que fondamentalement, si chaque cuisinier se reconnecte à la terre, à travers, bien sûr, son producteur, voilà, tout va changer. Lorsque le simple cuisinier saura qui a fait pousser cette carotte, je t'assure que quand il va éplucher la carotte, il va plus créer la recette de la même manière. Et tout va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus savoureux. Il faut absolument recréer ce binôme cuisinier-producteur. Tout est là, la clé de voûte est là. Et je pense que cette pandémie, il faut quand même qu'elle serve à ça. Aujourd'hui, on a du temps, allez voir vos petits producteurs. On n'imagine pas tous les producteurs qu'il y a à proximité. Tu sais, vous parlez souvent de saison, tu en parlais encore tout à l'heure, quand tu dis c'est la saison de l'asperge, mm-hmm. On ne peut pas parler de saison sans parler de territoire géographique. C'est pas possible, on ne peut pas généraliser comme ça.
Bien sûr, les saisons sont différentes.
Pour la tomate, moi les asperges, elles sont arrivées, les premières asperges sont arrivées cette semaine, de Laurent Dumas. Voilà, tout est comme ça. Donc il faut vraiment associer le mot saison à proximité territoriale et du coup à votre producteur. Recréez, s'il vous plaît, ce lien social. Les cuisiniers, reprenez le pouvoir à travers votre producteur. C'est le seul moyen que demain, on mange très bien dans la moindre auberge de France. Je lance un appel vraiment aux 200 000 restaurateurs, aux 200 000 chefs cuisiniers qui sont dans ces cuisines, qui peuvent faire ça très bien, très simplement. Tu sais que j'ai eu 3 étoiles avec des produits tellement simples, ouais. Tellement magiques en même temps.
3 étoiles sans homard, 3 étoiles sans turbo, absolument, mais je connais bien votre cuisine.
Tarte au chou avec une racine d'endive, avec une salade de champignons, le monde végétal, il y a que ça de vrai. S'il vous plaît, je voudrais profiter de ton antenne, excuse-moi.
Rapidement.
Je te coupe, mais je voudrais vraiment profiter de ton antenne pour lancer un appel aux 35 000 maires de France. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils libèrent des terrains agricoles pour tous les restaurateurs. Si tous les restaurateurs avaient simplement 100 mètres carrés, je dis bien 100 mètres carrés de terre agricole, non pas pour produire, pour un côté pédagogique. Voilà, si demain, tous les cuisiniers de France savent ce que c'est que de ramasser des pommes de terre, ne serait-ce que ça, C'est une véritable, c'est la magie de la chasse aux épagnes, ramasser les pommes de terre.
Ouais,
c'est
ouais.
Magique.
Merci, Laurent Petit s'engage en politique, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup en tout
non,
cas,
non,
Laurent
Petit. Non, je plaisante. Il y a des choses simples.
Mais
à faire,
vous avez raison, faut déconfiner faut déconfiner nos cerveaux aussi. Voilà, c'est peut-être ça qui est important, le cerveau des cuisiniers, mais également les nôtres des consommateurs. Merci, Laurent Petit. Amandine Chaignot, on devait évoquer une recette d'asperges. Vous nous donnez juste l'intitulé de cette recette que les auditeurs vont pouvoir retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
On est en pleine saison des asperges et de l'ail des ours. Donc une petite recette facile, simple, une poêlée d'asperges blanches à l'ail des ours avec quelques œufs, des petites capres et voilà, un petit peu d'anchois et c'est parfait. C'est une super recette de printemps, facile, rapide, comme on aime.
Et citez votre producteur d'asperges, s'il vous plaît, qu'on avait reçu dans cette émission.
En fait, il y a Frédéric Poupard qui est, dont on parle pas beaucoup, qui est un mec hyper discret mais qui fait des trucs superbes. Il a commencé à faire de la fraise de folie là aussi en plus cette semaine.
Il est en bio dans le Val de Loire. Hein.
Exactement,
Frédéric
et Poupard. C'est magnifique. Voilà.
Merci Amandine Chaignot, bon courage parce que je vous vois sur les réseaux sociaux, vous êtes au Turbin, vous travaillez, vous prêtez votre cuisine à Collectif Solidaire. Bravo pour votre engagement et puis j'espère vous retrouver bientôt sur les ondes de notre émission.
Avec plaisir.
Merci
avec
beaucoup, plaisir, Amandine. Des asperges d'Amandine Chaignot. On passe aux asperges de Proust dans Du côté de chez Swann lors d'un séjour à Combray chez sa grand-tante. Le narrateur raconte sa rencontre avec ce drôle de légume allongé. C'est une lecture de Vincent Josse.
Madame Octave, il va falloir que je vous quitte, je n'ai pas le temps de m'amuser. Voilà bientôt 10 heures, mon fourneau n'est seulement pas éclairé et j'ai encore à plumer mes asperges. Comment, Françoise ? Encore des asperges ? Mais c'est une vraie maladie d'asperges que vous avez cette année. Vous allez en fatiguer nos Parisiens ? Mais non, Madame Octave, ils aiment bien ça. Ils rentreront de l'église avec de l'appétit et vous verrez qu'ils ne les mangeront pas avec le dos de la cuillère. L'année où nous mangeâmes tant d'asperges, la fille de cuisine habituellement chargée de les plumer était une pauvre créature maladive dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques et on s'étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besognes car elle commençait à porter difficilement devant elle la mystérieuse corbeille chaque jour plus remplie dont on devinait sous ses amples sarraux la forme magnifique. Les légères couronnes d'azur qui saignaient les asperges au-dessus de leur tunique de rose étaient finement dessinées étoile par étoile, comme le sont dans la fresque les fleurs bandées autour du front ou piquées dans la corbeille de la vertu de Padoue. Mon ravissement était devant les asperges, trempées d'outre-mer et de rose, et dont l'épi finement pignoché de mauve et d'azur se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leurs plants, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s'étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elle jouait, dans leur farce poétique et grossière comme une féerie de Shakespeare, a changé mon pot de chambre en un vase à parfum.
Et oui, vous l'avez sans doute remarqué, on a le pipi qui sent fort quand on a mangé des asperges, je le dis un peu moins bien que Proust, mais c'est en tout cas ce qu'il voulait nous faire sentir dans tous les sens du terme. Merci à Vincent Josse pour sa lecture et on retrouve Vincent pour son grand atelier tout à l'heure à 15h sur France Inter. Aujourd'hui, ce sera une rediffusion de l'atelier fantôme consacré à Charlie Chaplin.
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me high. I'm singing revival, revival song.
trying to find you. Lost my way. Walked in the darkness in search of day.
Revival, Grégory Porter, vous êtes bien sur France Inter.
On va déguster. Sur France Inter.
Nous sommes en ligne avec Thierry Kasprowitz, bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous nous appelez de La Réunion, ce gros bout de France d'outre-mer. Il est quelle heure chez vous ?
Là, il va être bientôt midi, il est midi moins 5.
Midi moins 5, bientôt l'heure du repas, j'imagine que vous êtes au fourneau.
Exactement, et il fait très très beau, férocement beau, je peux dire.
Oui, précisons à nos auditeurs que vous êtes journaliste gastronomique, vous êtes l'auteur du guide Caspro, la sélection des plus belles tables de La Réunion, et vous allez nous donner des nouvelles de nos amis restaurateurs de La Réunion. Alors, comment ça se passe, confinement kiff-kiff avec la métropole, hein, même si je crois savoir que la crise sanitaire, touchons du bois, semble pour l'instant maîtrisée à La Réunion?
Oui, exactement, François-Régis, on est épargné pour l'instant de cas de décès. Il y a 420 cas détectés, mais on va dire que la crise est un peu sous contrôle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et tant mieux. Alors c'est un confinement hein, qui est tropical, mais qui est un confinement aussi pour tout le monde, le même qu'en métropole. Hein, les restaurants sont fermés et bon, la filière souffre beaucoup, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des initiatives très intéressante de quelques restaurateurs, à l'image d'Amandine Chéniaud que vous avez eu tout à l'heure, ou Florent Laden du côté de Lille.
Vous êtes confiné du côté de... dans l'ouest de Lille, hein, je crois.
Ouais, je suis à Saint-Leu, autour de Champs de Canne à Sucre.
Très bien. Et dites-nous alors, s'il y avait une ou deux initiatives, sachant que vous nous avez préparé une longue liste pour ceux que ça intéresse, et notamment nos auditeurs d'outre-mer, puisqu'ils sont nombreux à nous écouter, une longue liste d'initiatives de restaurateurs de La Réunion sur franceinter.fr, à la page on va déguster. Si vous aviez une ou deux idées à nous signaler.
Ah oui, il y a une initiative qui est très intéressante de la part du chef Jehan Colson, qui est un ancien de chez Pascal Barbeau à La France. Hein. Jehan Colson a commencé dès le début du confinement à être assez actif et solidaire. Au départ, c'est parti par rapport à une vente éphémère en voulant vider ses frigos et en proposant à prix coûtant toute sa marchandise. Et puis finalement, il s'est proposé, et c'était à la demande aussi de ses clients, d'être là comme un missionnaire, c'est-à-dire proposer des choses aux clients. Il a transformé, à l'image aussi d'Amandine Chéniaud, son restaurant et sa cave en mini-marché où il propose des plats mijotés, des prêts à cuisiner, des plats déjà cuisinés, avec également le fruit et les légumes de ses producteurs, donc ce qui est assez intéressant. Et c'est également aussi la façon de faire un peu travailler ses équipes. avec une mise en place de 3 jours. Et le jeudi, vous pouvez alors commander, enfin vous commandez en amont, mais vous récupérez. Il fait de la livraison aussi également sur certains secteurs de l'île. Donc ce qui est très intéressant, alors on trouve des plats très intéressants, hein, comme la papillote d'espadon, lancier en feuilles de banane, coulis miel, bio, bissap, romarin, une purée de fruits à pain, lait de coco, gingembre, un super poulet en chocolat noir, et du baba au rhum aussi.
Ah, rhum local j'imagine, puisqu'il y a une belle production de rhum à La Réunion. On termine par une petite recette, cher Thierry, parce qu'en plus d'être journaliste gastronomique, vous êtes un excellent cuisinier. Il y a un plat dont je suis tombé amoureux à l'occasion d'une de mes voyages à La Réunion. C'était d'ailleurs pour cette émission On va déguster. C'est le fameux rougail saucisse, c'est bonne nouvelle. On peut le pratiquer de façon très simple, même à la métropole.
Oui, exactement. Alors moi, c'est ma recette de mon rougail saucisse. C'est le plat emblématique de La Réunion, le sacro-saint plat réunionnais. Mmh. C'est très facile à réaliser, qui peut s'adapter en métropole. Alors pour 6 personnes, vous faites bouillir 12 saucisses fumées.
Oui.
Donc évidemment, si vous avez de la saucisse créole, c'est très bien. Sinon, vous faites de la saucisse Montbéliard ou de l'Alsace. Moi, je prends, quand je suis dans ma famille en Lorraine, je prends la saucisse qui sert à la choucroute.
Mmh.
Donc, dans un grand volume d'eau, vous faites bouillir pendant 25 à 30 minutes pour bien dessaler les saucisses. Ensuite, vous les égouttez, vous les coupez en rondelles de 2 ou 3 cm et vous les faites revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile végétale dans un faitout. Vous ajoutez 4 oignons émincés grossièrement. Faites bien revenir sans noircir les oignons. Ajoutez à ce stade, si vous aimez le piment, 1 ou 2 piments frais pilés au mortier ou simplement finement hachés si vous n'avez pas de pilon. Mélangez bien l'ensemble. Ajoutez ensuite une grosse boîte de tomates en conserve.
Je sais que
c'est pas la saison des tomates fraîches, donc profitez, mettez des tomates en conserve bio.
Ouais.
Et puis laissez compoter à couvert pendant durant 25-30 minutes. Et ensuite, c'est prêt. Vous servez ça avec du riz blanc.
Génial.
Et accompagné éventuellement de lentilles de Sillaos ou de haricots rouges cuisinés.
Ça va rougailler.
Ça permettra de mettre un peu de soleil en métropole. Je sais que vous avez le soleil, mais ça vous donnera un peu d'épices.
Et si on a la chance de faire cuire le chaudron sur le feu de bois, il paraît que ça apporte un petit goût fumé supplémentaire qui est absolument inimitable. J'ai eu l'occasion de goûter ce rougail saucisse sur place à La Réunion. C'est vraiment un plat extraordinaire de notre patrimoine français que vous pratiquez superbement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, cher Thierry, que vous nous avez offert cette recette qui est en ligne pour nos auditeurs, le rougail saucisse avec des saucisses fumées.
Merci, François-Régis, et merci beaucoup pour le soutien de toute la filière, producteurs, restaurants. Ce que vous faites, c'est absolument génial.
Merci beaucoup Thierry, à très bientôt dans un instant. Une conversation avec le plus gourmand de nos philosophes, c'est Michel Onfray qui sera en direct avec nous pour une discussion philosophico-culinaire. Si vous avez des questions à lui adresser en rapport à l'alimentation, la cuisine et la gastronomie, vous nous contactez au 01 45 24 7000.
On va déguster sur France Inter.
Selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger.
Oh, que cela est bien dit. La plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie.
Quel est le grand homme qui a dit ça?
Je ne me souviens pas maintenant de son nom.
Souviens-toi de m'écrire ces mots, je les veux faire graver en lettres d'or.
Un extrait de L'Avare à la Comédie Française avec Michel Aumont. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. On posera peut-être la question justement à notre philosophe Michel Onfray. Mais pour l'heure, on retrouve l'un des experts musique de France Inter, c'est Mathieu Conquet. Bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous vous en mettez plein les oreilles, mais aussi plein la bouche. Vous composez pour nous dans cette émission des accords mets et musique avec Marie, votre femme cuisinière. Et d'ailleurs, on peut renvoyer nos auditeurs à de très jolies vidéos que vous faites sur vos accords mets et musique et que vous publiez sur les réseaux sociaux de France Inter, c'est bien ça ?
Exactement, il y en aura une qui sortira tout à l'heure avec la recette que je vais vous donner là, puis il y aura d'autres recommandations, il y aura d'autres musiques et d'autres idées de recettes qui vont avec.
Très bonne idée, vous nous nourrissez les oreilles donc, et aujourd'hui, vous sortez de votre coquille Mathieu ?
Voilà, je voulais vous proposer une recette hédoniste pour ce dimanche avec des huîtres gratinées. Parce que la semaine dernière avec vous, je me souviens qu'on avait parlé de pêche locale.
Oui.
Des petits bateaux auprès de qui on peut passer commande. Et voilà, parfois on commande beaucoup et puis il arrive qu'il nous reste quelques huîtres qu'on n'a pas pu manger et qu'on a gardé dans le bas du réfrigérateur. Et le lendemain ou le surlendemain, parfois on se demande si est-ce qu'elles n'ont pas perdu en fraîcheur, confinées dans le frigo.
Mm-hmm.
Alors, il y a une solution gourmande, c'est c'est de les faire gratiner. Vous prenez ces huîtres, alors vous pouvez commander, il y a des tas de réseaux, hein. Nous on avait essayé avec Tom Saveur, ça c'est un réseau iodé vivant de Boulogne-sur-Mer, à Oléron. Donc des huîtres, du pain sec, si vous avez un vieux morceau de pain qui reste, c'est très bien. Le plus sec, le plus dur il est, c'est très bien. Il vous faut de l'ail des ours. Vous allez mixer l'ail des ours avec un petit peu d'huile d'olive. Si vous avez un petit morceau de parmesan, vous l'ajoutez, mais sinon c'est pas grave. Et puis vous mixez pour obtenir une consistance un peu genre pesto. Vous ajoutez les petits morceaux de pain que vous avez découpés. Et puis ensuite, il faut obtenir une sorte de chapelure un peu du calibre gros sel. Vous ouvrez les huîtres, vous assurez qu'elles sont bien vivantes, qu'elles réagissent à l'ouverture, et puis vous leur laissez le temps de refaire leur eau.
Oui.
Ça vous laisse le temps de mettre votre four à chauffer. Il faut que le grill soit vraiment fort. Et puis, une fois que vous avez disposé votre chapelure, une petite cuillère de chapelure dans chaque huître, vous enfournez pendant 5 minutes. C'est tout, pas plus. Wow. Et puis, dès que vous les sortez, vous régalez. C'est vraiment croquant, iodé, c'est super fort. C'est
magnifique. Bon. Alors, si on n'a pas d'ail des ours, qui est cette fameuse... Cette ail sauvage qu'on trouve beaucoup en forêt, un peu partout d'ailleurs, en milieu légèrement humide. Bon, on peut remplacer l'ail des ours évidemment par une autre herbe aromatique, éventuellement du persil ou de l'ail tout court, mais en y allant un peu mollo.
Évidemment, ou pourquoi pas avec du basilic aussi, ça pourra fonctionner. Et l'ail des ours, ouais, vous avez raison de le dire, s'il y a un sous-bois pas loin, ça se trouve voilà dans les sous-bois, dans les endroits un peu ombragés,
ouais.
Et ça se reconnaît vraiment facilement avec les petites fleurs. C'est assez singulier. On peut aussi manger les petites fleurs.
Absolument.
Voilà.
Et alors, on imagine un petit accord musical justement avec ces huîtres gratinées.
Exactement. Alors, je me suis rappelé, puisque vous recevez tout à l'heure Michel Onfray,
oui.
Je voulais parler d'un hédonisme musical. Et il avait sorti un petit livre dont je me souviens que ça s'appelait « La raison des sortilèges ».
Ah ouais.
Et où il parlait beaucoup de musique. Et j'ai rebondi sur le mot de jubilation esthétique. Parce que vous savez, souvent, c'est les premières émotions qui vont vous marquer pour toute la vie. Et moi, les huîtres... Et le rock, c'est très lié, parce que la première fois que j'ai aimé des huîtres, c'est tout récent, c'était dans un festival de rock à Rennes, à 2h du matin. Vous savez, parfois, vous avez besoin d'un petit coup de fouet, et j'avais mangé des huîtres, et là, d'un coup, je m'étais mis à aimer, ça m'avait donné un coup de fouet incroyable.
Vous êtes pris une claque marine.
Exactement. Et du coup, j'ai pensé à un groupe de punk américain, Joe Breaker.
Oui.
Voilà, vous allez voir, là encore, c'est un coup de fouet. Et Joe Breaker qui chante Oyster. Oyster, c'est l'huître. Et dans le refrain, il dit « Le monde est une huître enfermée dans sa coquille. On aime le goût, mais pas toujours l'odeur. » Alors, vous allez voir, si vous faites gratiner avec cette recette, vous allez voir, ça va sentir très bon.
Joe Breaker, qu'on pourrait d'ailleurs traduire en français par casse-mâchoire, quelque chose comme ça, ouais. Magnifique. Non mais c'est génial, vraiment le choix musical tout trouvé. Merci infiniment Mathieu Conquet, et puis on se dit avec vous que la musique c'est décidément la gastronomie des oreilles.
Ah bon, c'est joli. Des petits plats, de la platine aux petits plats, on peut dire aussi.
Waouh, pas mal, de la platine aux petits plats. Merci beaucoup en tout cas Mathieu, on retrouve vos vidéos sur les réseaux sociaux de France Inter. Merci pour ce choix musical. On écoute donc Huître de Casse-Mâchoire. Non, je plaisante. Oyster de Joe Breaker, et à bientôt sur les ondes de France Inter, Mathieu.
À très bientôt. Locked in a shell. You like the taste of it, can't take the smell. I can't sleep to save my life. The day is done, but I don't think I got it.
Mon père faisait des tomates, des carottes, des haricots, des poireaux et des fraises. Donc j'avais pris une grosse fraise et il me dit « passe-la sous l'eau d'abord ». Et il y avait un petit robinet, j'ai ouvert le robinet, j'ai enlevé la terre qu'il y avait sur la fraise. Et au moment où j'écrase cette fraise entre mon palais et ma langue, etc., je deviens fraise moi-même. Il y a une espèce de jus de fraise extraordinaire. Il y avait la chaleur de la journée de l'été. Et en même temps, la fraîcheur que l'eau avait réussi à mettre juste sur la surface, comme ça. Et je suis devenu moi-même une fraise. C'est-à-dire, j'ai un souvenir ému de ce moment-là où les fruits et les légumes avaient le goût de fruits et de légumes et avoir le goût de ce qu'on est, c'était finalement le problème de l'identité qui était résolu, qui se trouvait ainsi résolu.
Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir en direct et à distance pour échanger avec vous autour du goût, de la cuisine, de l'alimentation, qui sont l'un de vos champs de réflexion. Je rappelle que vous avez quand même signé plusieurs ouvrages sur le sujet. Le ventre des philosophes en 1989, La raison gourmande en 1995, où vous racontiez justement cette première fois avec la fraise. On vous entendait l'évoquer avec gourmandise. C'était un extrait d'un documentaire récent qui vous est consacré sur les chemins de mon enfance, signé Stéphane Simon et Alexandre Jeunette. Est-ce que c'est ça, Michel Onfray, au fond, le plaisir de manger, ne faire qu'un avec l'aliment dégusté? À vous entendre, on a presque affaire à un corps à corps amoureux, presque à un acte sexuel.
Comme vous y allez. Mais oui, je crois que vous avez raison. Enfin, il y a quelque chose de d'étonnant dans la relation à la nourriture, c'est que effectivement c'est une fête plusieurs fois recommencée dans la journée. Ce sont plusieurs occasions, petit déjeuner, un 4 heures comme on disait aussi dans mon enfance, et puis un dîner, et il y a un rapport aux aliments qui doit être vraiment de pure présence. C'est-à-dire que vous avez des gens aujourd'hui dans des très, très grands restaurants, la plupart du temps c'est pas eux qui paient les factures, hein, mais vous vous retrouvez ce sont les entreprises, et les gens parlent, ils parlent contrat ou je ne sais quoi, et quand on pourrait éventuellement les interroger, mais vous feriez un micro-trottoir à la sortie en leur demandant ce qu'ils ont mangé, ils seraient peut-être même incapables de vous dire quelle viande on leur a servi. Je pense que vraiment la nourriture c'est un rapport de présence, c'est-à-dire que vous parliez superbement tout à l'heure des huîtres, mais effectivement les ouvrir, les sentir, les regarder, les appréhender déjà visuellement. Il y a des très beaux textes et des très beaux poèmes de Francis Ponge, par exemple. Mm-hmm. Et puis après, goûter, mais être vraiment à ce qu'on est en train de faire, quoi. D'abord, il faut être comme ça tout le temps, c'est-à-dire être présent à ce qu'on fait. Mais dans la gastronomie, dans la nourriture, dans les vins, par exemple, on ne peut pas vraiment goûter si on n'est pas présent à ce qu'on fait. Et de fait, il y a des moments d'extase comme ça, où vous... Alors, c'est cette histoire de fraises, j'étais enfant, mais où vous êtes vraiment totalement ce que vous êtes en train de manger, oui.
On va en parler. Alors, vous êtes confiné à Caen. Les fraises normandes viennent d'arriver sur les étals, d'ailleurs avec un peu d'avance en raison de la météo. Bon, j'imagine qu'avec le confinement, il vous est difficile de vous en procurer. Comment ça se passe l'alimentation à la maison en temps de confinement, Michel Onfray?
Alors vous allez me contraindre à raconter un peu de ma vie, mais j'ai contracté une dingue en Martinique,
ouais.
Et je me suis retrouvé pas bien pendant un petit mois, et notamment pas bien du tout pendant 8 jours. Et donc j'ai des voisins extraordinaires, enfin Lydie, le Thomas et Cyril, qui sont vraiment adorables et qui sont venus m'apporter des plateaux repas aux heures donc de repas. Et Lydie cuisine superbement et ils ont gardé cette belle habitude, c'est-à-dire qu'ils sont adorables. Je suis seul chez moi, mon épouse est chez elle, et donc ils viennent me récupérer. Et tous les midis, tous les soirs, ils m'apportent un plateau et ils sont vraiment adorables. Donc ils me dispensent de tout ça et je peux donc travailler plus encore.
Très bien. Et je crois savoir d'ailleurs que la dingue a un peu perturbé votre perception du goût. Pour un gourmet comme vous, c'est peut-être un peu contrariant, non ?
Oui. Alors, il y avait effectivement ce problème de l'anosmie ou de la gueusie, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir sentir ou de ne plus pouvoir goûter, qui désignait le Covid. Et donc, j'ai été diagnostiqué coronavirus pendant quelques jours. Mais en fait, j'avais effectivement ce trouble, alors qui n'était pas à gueusie, parce que dans la gueusie, on n'a plus de goût, et l'anosmie, on n'a plus de, on peut plus sentir. Mais les goûts étaient déformés. Et par exemple, je suis un fanatique de yaourt, et ils avaient un goût d'amertume terrible, au point que je pouvais même pas en manger une demi-cuillère. Donc, les autres aliments étaient aussi concernés, c'est-à-dire ça perturbe totalement la perception. Mm-hmm. Et c'est pas inintéressant, parce que finalement, on a l'impression qu'on perçoit tous les choses de la même manière, mais il y a des gens qui aiment des aliments, qui n'aiment pas d'autres aliments, qui apprécient des choses particulières. Enfin, je sais pas, il y a des fous, je vais pas dire caviar ou truffes, parce que ça, on comprend bien, mais on comprend pas pourquoi. Mais en fait, il y a vraiment une physiologie tout à fait particulière. Et j'ai compris à ce moment-là que des gens pouvaient ne pas aimer le vin parce que ils n'avaient pas le nez pour ça, quoi. Mm-hmm.
L'alimentation, Michel Onfray, est au centre de nos vies confinées. Cette émission le prouve, mais on le constate absolument partout autour de nous. On se réapproprie en quelque sorte le geste culinaire. On noue aussi des relations humaines avec les producteurs à côté de chez soi. On en a parlé dans la première partie de cette émission. On réenracine peut-être un peu notre alimentation. Est-ce que vous prenez ça pour une bonne nouvelle dans cet océan de mauvaises nouvelles ?
Ah oui, bien sûr. Moi, je défends depuis très longtemps des agricultures propres, parce que simplement, j'ai vu ça dans mon enfance, enfin, dans le jardin de mon père. Attention, parce qu'à l'époque, l'agriculture, c'était quand même très polluant. Mais ma mère qui cuisinait superbement, qui cuisine d'ailleurs toujours superbement, et donc cette espèce d'assemblage des bons produits et une bonne cuisine, c'est extraordinaire. Alors effectivement, quand on goûte du beurre qui n'a pas le goût de beurre, quand on goûte du lait qui n'a pas le goût de lait, alors je ne parle pas des conserves industrielles ou des choses qui sont sous vide ou sous plastique, etc. On est habitué à manger des choses qui sont dégoûtantes. Donc finalement, il n'y a pas franchement de plaisir, il n'y a plus de plaisir. Il faut manger parce qu'effectivement, il faut boucher un trou, comme disait Sartre. Pour Sartre, la nourriture, c'était ça, boucher un trou, combler un trou. On a faim, il faut remplir. On a soif, il faut remplir. Je pense que retrouver le goût des aliments, c'est quelque chose d'extraordinaire qui ne peut s'obtenir qu'avec des vrais agriculteurs. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a une jeunesse agricole, enfin des jeunes qui aujourd'hui font des produits bio fantastiques. Je vais sur le marché tous les dimanches matin à Caen, par exemple.
Marché Saint-Sauveur.
Étals. Pardon, pas Saint-Sauveur, sur le bassin Saint-Pierre. Saint-Sauveur, c'est le vendredi.
Oui.
Mais il y a là des jeunes paysans qui font des choses extraordinaires, des produits biscornus, moches, pleins de terre. Mais quand on les a nettoyés, lavés et préparés, là, on retrouve pour le coup le goût des aliments. Et pour ça, il faut effectivement des filières courtes.
Très bien. Bah justement, on parle agriculture. Vous restez avec nous. Vous êtes notre témoin, Michel Onfray. Dans un récent sondage, ce sont 93% des Français qui disent que l'autonomie agricole de la France doit être la première priorité d'après crise. Reste à définir évidemment cette agriculture. En tout cas, l'agriculture est un vrai sujet de préoccupation, n'est-ce pas, Elvira Masson?
Complètement, ce sondage le prouve. On parle d'autonomie agricole, on parle de résilience alimentaire. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. La question est, comment se feront-elles, cette autonomie et résilience? Passeront-elles par une agriculture paysanne, respectueuse des saisons, des ressources, des hommes qui la produisent, du vivant en somme, ou par une agriculture hors sol, intensive? On sait bien qu'il faudrait ne pas cliver. On sait bien que la question est plus subtile que ça, en principe. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est bien un clivage qu'a opéré Emmanuel Macron en se rendant en Bretagne mercredi dernier chez des producteurs de tomates sous serre. Il est venu, je cite, pour remercier les salariés qui nourrissent le pays. Ça a fortement déplu à beaucoup, notamment à Olivier Rollinger, le chef de Cancale, qui a tweeté ceci. Des tomates cultivées hors sol et hors saison, sous serre chauffée toute l'année, puis vendues en grande surface, n'incarnent pas le nouveau modèle agroalimentaire que le président Macron nous a demandé d'imaginer pour un autre monde collaboratif et éthique. Lors de sa visite, Emmanuel Macron a estimé que la France ne pouvait pas compter uniquement sur les circuits courts et le bio pour se nourrir, et souligner la complémentarité avec l'agriculture conventionnelle. Réponse de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Depuis plus de 3 ans, l'agriculture biologique est victime de l'absence totale de vision écologique de l'Élysée, évoquant, et je cite de nouveau, retard de paiement, suppression des aides au maintien et objectifs de développement mensongers. Ceci m'a fait penser à quelqu'un qui nous a quittés il y a presque un an, le 1er juin 2019. Michel Serres, philosophe, historien des sciences, il s'intéressait à tout, à l'urgence écologique et environnementale, bien avant que ce soit à la mode, et notamment aussi à l'alimentation des hommes et à ce qui permet cette alimentation, l'agriculture. Alors il n'a pas vraiment écrit d'ouvrage précis sur ce sujet, mais il en a souvent parlé, s'interrogeant sur une question essentielle, comment la planète nourrira-t-elle 9 milliards d'individus dans 30 ans ? Michel Serres militait pour la protection de la biodiversité agricole en se fondant sur le modèle juridique mis en œuvre en France pour protéger certains produits culturels, en particulier les films, ce qu'on a appelé l'exception culturelle française. Il a donc proposé la mise en œuvre d'une exception agricole, on pourrait même dire une exception agriculturelle, une exception qui dérogerait donc aux règles du libre-échange. Alors je préfère rendre justice à la pensée de Michel Serres en le citant, si vous le voulez bien.
Avec plaisir.
Manger est notre besoin biologique premier. Opposant des obèses à des nouveau-nés mourant de faim, le monde souffre aujourd'hui d'une injustice majeure concernant la nourriture. Manger est le premier acte vital, certes, mais en raison de cette iniquité, un acte social, politique, juridique, moral, et sans doute aussi sacré, puisque presque toutes les religions en font un rite. Or, depuis que des ancêtres de génies domestiquèrent certaines espèces de faune et de flore, nous dépendons des agriculteurs pour manger. Sans paysans, aucun humain ne survivrait. Le paysan est le père nourricier de l'humanité. Il occupe en cela une position exceptionnelle dans la condition humaine. Aucun professionnel ne lui est comparable. Or, une autre injustice, la même sans doute, accule aujourd'hui la paysannerie à la ruine, alors que nul ne pourrait se passer d'elle. Il est donc de nécessité vitale, de justice politique et morale, mais aussi d'urgence historique, d'établir une exception agricole comparable à l'exception culturelle, qui n'en est finalement que la copie, puisque la culture agraire, elle seule, nous permet de survivre.
Merci beaucoup, Elvira Masson. Une exception agriculturelle, Michel Onfray, que vous inspire cette idée de Michel Serres ?
Vous allez me contraindre à faire de la politique, mais on ne peut pas ne pas faire de la politique quand on dit une chose comme celle-ci. C'est-à-dire, on ne peut pas d'un côté, ce qu'était Michel Serres, défendre la social-démocratie, tous les projets maastrichtiens, libéraux, de libre circulation sur la totalité de la planète, et puis de l'autre côté, déplorer que l'agriculture soit devenue ce que justement les libéraux en ont fait. C'est-à-dire que si vraiment on veut changer l'agriculture, alors d'abord, bravo d'avoir signalé effectivement qu'Emmanuel Macron s'est trouvé ridicule dans une ferme où les fraises poussent à hauteur d'homme. C'est-à-dire on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans cet endroit? Il y a des fraises qui poussent à 2 mètres du sol. En fait, j'ai découvert effectivement que c'était des fraises hors sol. Comme il est hors sol, c'est-à-dire hors sol, c'est-à-dire il n'y avait pas de terre. Il y avait du plastique, des bâches en plastique, mais pas de terre. Bah, effectivement, c'est l'agriculture que mettent en place les libéraux quand ils estiment effectivement qu'il faut faire de l'argent, mais pas forcément des bons produits. Je présume que les fraises de l'endroit où était Emmanuel Macron, en Bretagne, sont immangeables. Quand une fraise n'a jamais vu la terre, quel goût voulez-vous qu'elle ait? C'est-à-dire, effectivement, il y a des petites billes d'argile dans lesquelles on met des produits chimiques, et puis les fraises sont nourries de cette manière-là. Mais c'est honteux.
Alors, pour être exact, elles se dispensent. Parce que je me suis un peu renseigné, elles se dispensent de traitements chimiques et de pesticides, mais en tout cas, effectivement, elles ne sont pas des fraises de pleine terre, ça c'est certain. C'est des fraises technologiques.
Ben voilà. Alors, comment vous dites? D'abord, moi, je pense que plein d'auditeurs seront d'accord avec moi, mais je veux dire qu'il y a un moment, quand ça dépend de l'âge qu'on a, je veux dire, il y a un moment donné où on a le souvenir des fraises qu'on a pu manger dans un jardin de père ou de grand-père ou etc. Et puis aujourd'hui, vous goûtez des fraises, même parfois, elles coûtent très cher. Et puis vous dites, je ne retrouve pas ce goût. Non pas parce qu'on est devenu vieux ou qu'on a perdu des sensations ou des perceptions, mais simplement parce que ce sont des artefacts, c'est-à-dire des produits fabriqués par des industriels, mais pas du tout par des paysans. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de ces jeunes paysans qui sont capables de vous mettre sur des étals des fraises avec de la terre. Et évidemment, elles rencontrent la terre, elles poussent sur la terre, sur des modes de terre, enfin sur de la terre, et on en retrouve sur les fraises. Là, évidemment, elles sont propres, elles sont nettes, elles sont probablement passées à des karchers avec des produits, etc., etc. Donc c'est honteux, parce que je pense qu'on doit ajouter que assez probablement, un jour, on découvrira que toutes ces épidémies, toutes ces maladies, tous ces cancers, etc., tout ça provient des ingestions de produits chimiques qu'on fait à chaque fois qu'on fait des repas. C'est-à-dire, ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, on s'intoxique quand on ingère de l'alimentation industrielle.
Et bien justement, Michel Onfray, je voudrais vous questionner sur une autre thématique qui est un peu la révolution alimentaire, on peut l'appeler comme ça, qui prône de nouveaux dogmes en ce moment, une certaine sobriété, de la frugalité dans nos assiettes liées évidemment à l'urgence climatique que nous connaissons, la diminution ou l'arrêt de notre consommation de chairs animales. Et beaucoup des porte-paroles de cette forme on peut peut-être l'appeler sans être péjoratif, cette forme d'hygiénisme alimentaire, se réclame justement d'un philosophe, Jean-Jacques Rousseau, qui est très à la mode en ce moment, on le voit sur les réseaux sociaux, et qui prenait déjà en son temps une espèce de renoncement alimentaire. Dans votre ouvrage « Le ventre des philosophes », vous citez cette phrase de Rousseau dans « Les confessions »« Je ne connais de meilleure chair que celle d'un repas rustique, avec du laitage, des œufs, des herbes, du fromage, du pain bis et du vin passable. On est toujours sûr, je suis toujours sûr de bien me régaler. Et si l'époque et l'évolution de notre alimentation donnaient aujourd'hui raison à Jean-Jacques Rousseau ?
Oui, enfin, on n'a pas le temps de faire un long développement
évidemment.
Sur Rousseau, mais il y avait chez Rousseau une espèce de façon polémique d'appréhender le monde. C'était un grand misanthrope, un grand malade. Physiquement, il était très malade. Il était sondé en permanence. Et il y avait chez lui une espèce de haine de la civilisation. Et voilà un homme qui composait des opéras, mais écrivait contre la musique. Voilà un homme qui écrivait des livres, mais en même temps fustigeait l'imprimerie parce que c'était une catastrophe. Et donc, dans le lignage, je renvoie là au discours sur les sciences et les arts, il nous dit effectivement que tout ce qui est naturel est formidable et tout ce qui est culturel est détestable. Donc, il fait fonctionner ce schéma-là sur l'alimentation. Et ce qu'il vise, c'est finalement la nourriture des aristocrates et des bourgeois, c'est-à-dire les grandes tablées dans lesquelles il y avait des produits de luxe, des mets de luxe, des cuisiniers derrière tout ça, et en ce sens on peut pas complètement lui donner tort. Donc il y a un effet rhétorique chez Rousseau, mais en même temps il a raison, c'est-à-dire il dit quelque chose de juste. Si vous avez un aliment vraiment fabriqué par un paysan, par un agriculteur ou par un maraîcher, vous le mettez dans l'assiette, vous n'avez presque même pas besoin d'autre chose, enfin si ce sont des choses qui se mangent crues. Mais que ça, quoi. Le gastronome ou le cuisinier, c'est quoi? Le cuisinier, c'est celui qui ajoute au produit naturel. Mais Rousseau avait raison, même s'il était polémique, de défendre le produit naturel. Et heureusement, on y revient. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé de voir des poireaux qui étaient bio, simplement. Ils avaient été cultivés en Égypte et ils avaient fait l'avion, quoi. Donc, il y a un moment donné où on se dit, plus c'est le localisme qu'il faut défendre d'une certaine manière. Plus c'est prêt, plus c'est propre, moins c'est trafiqué, meilleur c'est.
Et venons-en justement à ce problème épineux de la consommation de la viande, car certains tenants du végétarisme ou du véganisme tiennent justement, Jean-Jacques Rousseau aussi, pour l'un des philosophes qui a été visionnaire sur le sujet. Rousseau a notamment écrit, je crois, « Le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme ». Alors dans Cosmos, vous abordez cette question qui a fait réagir bon nombre de consommateurs, et nous avons justement en ligne un auditeur qui voudrait vous interpeller, je crois que c'est Guy.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Flers dans l'Orne, pas très loin de la région natale de Michel Onfray.
D'accord. Vous avez une question pour Michel Onfray ?
Oui. Je suis nutritionniste de formation, pharmacien biologiste, nutritionniste. Et comme je m'ennuyais avec les boîtes d'aspirine, j'ai fait un peu de médecine, pour m'occuper. Alors ma question est la suivante. J'ai lu Hippocrate qui disait évidemment « Je voudrais que ton aliment soit ton médicament ». Ça m'a beaucoup plu. J'ai continué dans ce sens-là, et bien qu'amateur de gastronomie, comme Michel Onfray, un peu hédoniste sur les bords, je me demande ce que cherchent les promoteurs du véganisme ou de ces sortes d'horreurs à visage inhumain.
Ah, oula, d'accord, bon. Alors, pour situer votre position, mais vous aurez le droit de la rectifier, évidemment, Michel Onfray, vous avez écrit donc dans Cosmos, votre essai publié en 2013, la question se pose de manger les animaux ou non. Quand je pense, je conclus que non. Quand je mange, je fais comme si je n'avais pas pensé ni rien conclu. Certains lecteurs vous reprochent de pas vraiment choisir votre camp, en quelque sorte.
Si, j'ai dit que j'étais un croyant non pratiquant.
Oui, c'est
donc,
ça.
Alors moi je suis flexitarien si les gens veulent des étiquettes, c'est-à-dire que je ne parviens pas à me passer totalement de viande, mais mes consommations de viande ne sont plus les mêmes que quand j'étais enfant, d'abord parce que mon père qui était ouvrier agricole avait estimé qu'il fallait manger de la viande, qu'il y avait du sang, que c'était bon, que c'était fortifiant, etc., et ma mère préparait tout ça très bien, et que quand il y avait du poisson, c'était des morues à la crème, et alors il y avait eu de la crème et la patate qui faisait, la pomme de terre, qui faisait qu'on avait quelque chose qui tenait au corps, selon l'expression consacrée. Mais de fait, d'abord la civilisation a changé, on estime que c'est pas bien, mais je veux dire qu'il y avait des lapins dans le clapier de mes parents, il y avait des poules chez les voisins, etc., et c'était pas exactement la même chose que les animaux en batterie. Donc l'industrialisation de l'élevage des animaux fait que la donne a changé. Maintenant, je pense que non, les hommes naturels naturellement ont mangé des animaux, c'est-à-dire ils n'ont pas par exemple chassé le mammouth juste pour pouvoir l'empailler ou le regarder ou danser autour, c'était pour le manger. Donc on mange de la viande depuis longtemps et depuis toujours. Maintenant je pense qu'on peut en manger moins, donc ma position elle est très très clairement, effectivement mangeons de la viande, moins de viande, mangeons des meilleures viandes, parce qu'effectivement les poulets en batterie c'est terrible, enfin tous les animaux en batterie, les porcs en batterie qui on coupe la queue, etc., enfin c'est terrible tout ça. Donc effectivement je suis contre ça. Maintenant les véganes, je dis mais je vous prends au mot, d'accord, vous voulez absolument libérer totalement les animaux, bon formidable. J'ouvre une parenthèse pour dire que certains véganes pensent même qu'on peut s'accoupler sexuellement aux animaux, je pense au philosophe Peter Singer, parce qu'ils estiment effectivement que les animaux, les hommes, c'est exactement la même chose, et que pourvu qu'on les fasse pas souffrir, la sexualité avec les animaux est défendable, la zoophilie est défendable. Donc je veux dire que il y a des espèces d'impasses quand on tient ces discours là qui sont un peu problématiques. Alors après on fait quoi? On a un poisson rouge dans un bocal, on le met dans la rivière, il va se faire manger tout de suite. Vous avez un chat, vous avez un chien, des animaux domestiques, vous les mettez dans la nature, mais ces animaux ne sont pas des animaux naturels, ce sont des animaux culturels, ils ont été fabriqués pour devenir ça. C'est-à-dire, au départ, vous aviez un lynx, et à partir du lynx, vous avez fabriqué un chat. Au départ, vous aviez des aurochs, et vous avez fabriqué ensuite des vaches qui donnent du lait dans des stabulations. Donc il y a un moment donné où je pense que les véganes ont une conception de la nature qui est une conception culturelle, et pas du tout une conception naturelle. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment fonctionne le réel. C'est-à-dire, si vous mettez les vaches, les cochons, les moutons qui sont en élevage aujourd'hui totalement dans la nature, ils vont mourir. La prédation va faire que des animaux vont en manger d'autres. Donc je dis, si vraiment on pratique votre éthique, eh bien, ça ne va pas marcher. J'ajoute que ce sont souvent des jeunes cultivés, diplômés, des villes qui sont véganes. Moi, dans mon village natal à Chambois, 500 habitants, les véganes, il y en a pas. Parce que ce sont des gens qui sont en quête d'une spiritualité, qui sont en quête d'une éthique et qui la trouvent. Parce qu'effectivement, quand vous êtes végane, c'est un souci de tous les jours. C'est-à-dire pas seulement quand vous mangez, mais alors les chaussures que vous allez porter, les vêtements que vous allez porter, les aliments que vous allez manger, évidemment, les boissons que vous allez boire, parce que parfois vous avez des collages dans les vins qui se font avec du blanc d'œuf, et vous avez des gens qui estiment qu'ils ne peuvent pas boire de vin parce que le collage des particules qui fait qu'on clarifie le vin, tout ça c'est fait avec un œuf, et que l'œuf, c'est une catastrophe. Donc on se dit, mais il y a une espèce de défaut de connaissance de la nature qui fait qu'on est dans des impasses. Je ne pense pas que le véganisme puisse fonctionner, parce que si on le mettait en pratique, ce serait une catastrophe totale pour les animaux. Dès lors, ma position est très claire, c'est effectivement ce qu'on appelle les flexitariens, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'il faut consommer beaucoup moins de viande, mais de la bonne viande, élevée dans les conditions qui font que les animaux ont une vie d'animaux, mais sûrement pas des vies de batterie.
Très bien, votre position est claire. La question végane mériterait une émission complète, on l'a bien compris, mais on a un autre sujet qu'on aimerait aborder avec vous, Michel Onfray. C'est le vin, puisque vous en êtes un amateur. Vous avez visité de nombreux domaines, en France, à Bordeaux aussi, je crois, grâce à votre ami libraire Denis Mola. Vous connaissez le vin, vous avez des amis vignerons, et vous avez un peu secoué le milieu aussi, toujours dans Cosmos, avec vos propos sur la biodynamie que vous qualifiez de signature des temps nihilistes. Je crois que depuis votre position, enfin, c'est précisé, quelle est votre position par rapport à la biodynamie? Et là encore, je peux vous le dire, ça suscite beaucoup de réactions chez les auditeurs qui nous écoutent.
Oui, alors vous savez, aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ne croient pas au paradis, vous avez des marxistes qui ne croient pas à la lutte des classes, et donc tout est possible, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui font de la biodynamie et qui n'ont pas lu Rudolf Steiner. Rudolf Steiner est le philosophe de la biodynamie. Et quand je commence une discussion avec eux, ils savent pas, donc ils font de la biodynamie, ils font pas de la biodynamie contrairement à ce qu'ils racontent. Alors la biodynamie, c'est on arrête les traitements chimiques, et puis après, on commence quelque chose qui procède de l'homéopathie. C'est-à-dire que on fait de l'eau dynamique, vous avez de l'eau, vous la tournez dans un sens, puis après vous la tournez dans un autre sens, et elle est dynamisée. Moi je veux bien, mais l'idée qu'on puisse tourner de l'eau dans un sens et la tourner dans un autre sens, estimer que ça produit une eau dynamique, c'est-à-dire une eau qui n'a pas les vertus d'une autre eau, déjà c'est un peu bizarre. Ensuite, on estime que par exemple, si vous avez des rongeurs sur une parcelle, il faut prendre ces rongeurs et il faut les brûler, faire une poudre. Et cette poudre-là, vous allez la mettre dans de l'eau, et cette eau, vous allez la disperser, vous allez la pulvériser sur une parcelle, mais alors vous allez la pulvériser sur le principe homéopathique. C'est-à-dire, vous mettez une cuillère à café, par exemple, j'ai pas les doses en tête, mais une cuillère à café de cette poudre de musaraigne, par exemple, dans 50 litres d'eau, et vous allez pulvériser tout ça sur plusieurs hectares.
Il est vrai que la biodynamie, c'est un peu la médecine douce de la vigne, et pour vous, c'est ésotérique.
Ben oui, quand vous mettez de la bouse de vache dans une corne, que vous mettez cette corne dans la terre, que vous attendez que la lune soit montante, descendante, croissante, décroissante, pour ressortir cette bouse, et à partir de cette bouse, refaire des doses homéopathiques qui font que vous allez repulvériser la totalité de votre champ. Et ils nous disent, les gens qui font de la biodynamie, ils disent, mais ça change des choses. Mais je dis, mais bien sûr que ça change des choses. Mais pourquoi ça change des choses? Parce que vous avez arrêté les produits chimiques. Arrêtez-la et ça suffira. C'est-à-dire, les effets que vous prêtez à la biodynamie, il faut les prêter au fait que vous arrêtiez la chimie. Dès que vous arrêtez de mettre des saloperies dans un vignoble, mais effectivement, le vignoble, il va se sentir mieux. Alors, vous aurez des herbes en plus, ou je ne sais quoi. Mais l'idée de la bouse de corne, ou l'idée de l'eau dynamisée, ou l'idée des poudres faites avec des animaux qu'on aura cramé, tout ça, je dis, ça suppose qu'on croit effectivement à l'homéopathie, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de principe actif, il y a quand même un principe actif, j'appelle ça une religion. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui nous disent, mais la théorie quantique nous permet de dire que effectivement, par exemple, vous pouvez être mort et vivant en même temps, et qu'il n'y a rien de visible dans l'eau dynamisée, mais elle l'est tout de même. Je dis, c'est un article de foi, c'est de la croyance, et le rationaliste que je suis se dit, bah, au bout du compte, montrez-moi le vin que vous êtes en train de faire, s'il est bon, il n'y a pas de problème.
C'est ça. Donc, ça vous arrive de boire des vins biodynamiques, et je le sais d'ailleurs, mais c'est vrai que là, c'est vrai que oui, au bon sens paysan, si je suis votre pensée, non à la biodynamie comme religion. Justement, restez avec nous, Michel Onfray. On accueille un de nos chroniqueurs vins qui voudrait vous faire goûter une petite surprise. Alors, malheureusement, ça se passera à distance.
On va déguster sur France Inter.
Cher Antoine Gerbel, bonjour.
Bonjour, bonjour Michel, bonjour François Régis, bonjour à tous. Oui, j'étais un peu excité, je vous avoue, de savoir qu'on allait pouvoir un peu dialoguer avec Michel Onfray, parce que je connais sa passion, je l'ai lu, sa passion pour les vins. Et moi, je continue à être confiné chez moi, dans ma cave, mais je vais vous l'avouer encore une fois, j'aime beaucoup ce confinement, parce que je n'ai jamais passé autant de temps dans ma cave. Et je fais un petit jeu qui est assez drôle, même si vous n'avez pas beaucoup de bouteilles, vous éteignez la lumière de votre cave, de toute manière ne doit pas être très illuminé, et vous prenez une bouteille au hasard et vous essayez de découvrir quelle est la bouteille en touchant la forme, et puis après, bien évidemment, vous rallumez la lumière et vous la dégustez, et c'est le jeu du hasard. Et j'ai fait ça avec, j'ai trouvé une bouteille dans un casier, plutôt en bas du casier, donc les bouteilles un peu plus anciennes, j'ai touché la forme, je me suis dit, c'est pas tout à fait le côté ventru de la bourguignonne, ce n'est pas tout à fait le côté effilé de l'alsacienne.
Cher Antoine, éloignez-vous un peu.
J'ai lu quatre lettres. Oui.
Éloignez-vous. On a un grésillement. On vous entend assez mal. Est-ce que vous pouvez vous prendre vos distances peut-être par rapport à l'ordinateur?
Est-ce que là, ça va mieux?
Oui. Très bien.
Voilà. Voilà. Donc cette bouteille, je la découvre, et c'est une bouteille avec quatre lettres gravées sur la bouteille, c'était Jura. Alors le Jura, c'est une émotion très forte en ce moment. Le Jura, c'est peut-être, on va dire, le pendant du Bordelais de la fin du XXe siècle. Le Bordelais de la fin du XXe siècle, c'est le libéralisme du vin dans toute sa splendeur, des grands consultants qui font rayonner un style très boisé, reconnu par un chroniqueur américain qui s'appelle Robert Parker, des notes sur 100. C'est vraiment la grande étape de la mondialisation du vin. Ben, le Jura, ce qui se passe en ce moment, Jura, c'est le balancier. Ça part dans l'autre sens. C'est des vignerons qui n'ont jamais abandonné les cépages autochtones, des vignerons qui sont tout naturellement passés la plupart, un taux très important de vignerons en bio et en biodynamie. Et tout simplement parce que ce sont des gens qui ont le goût, ont gardé le goût des choses. Et cette bouteille de Jura, elle m'a touché beaucoup parce que c'était un 2007, c'est un 2007, d'un domaine qui s'appelle l'Octavin. Alors l'Octavin, pour les musiciens, que ça parle bien évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi le piccolo, cette petite flûte. Et ce domaine de l'Octavin a été créé par Alice Bouveau. Alice Bouveau, c'est une femme extraordinaire qui est d'abord violoncelliste, elle s'est formée au conservatoire, puis après le goût du vin lui est venu, elle s'est formée à l'œnologie, à l'agronomie, elle est ingénieure agronome, elle est partie faire un tour dans le Nouveau Monde, et puis elle est revenue avec son compagnon de l'époque, et ils se sont dit, un peu la réflexion que j'évoquais tout à l'heure, où va se passer l'avenir du vin. Ils se sont installés dans le Jura. Et l'Octavin, c'est des très belles cuvées qui font souvent référence à Mozart, c'est leur côté musicien. Et là, c'est la cuvée à la Reine de la Nuit. Bien évidemment, la Reine de la Nuit, ce chant très célèbre. Et 2007, c'est un mélange de Chardonnay et de Savagnin. Ce fameux Savagnin qui peut être à la fois très fait, très sec, très vif, et qui aussi donne ces merveilleux goûts de curry et de noix subtils dans le vin jaune. Alors voilà, ça m'a touché. Mm-hmm. Le hasard de la bouteille a fait qu'on pouvait raconter une histoire, que quand vous prenez une bouteille qui a 13 ans, eh ben vous rappelez les vignerons. Ils ont beaucoup changé. Cette vigneronne, depuis, elle fait du négoce, elle se promène dans la France entière à faire des petites étiquettes très drôles avec des petits nains qui sont reconnaissables chez beaucoup de cavistes, et elle va chercher des cépages à Perpignan, dans la Loire, dans le Rhône, pour faire vraiment une forme d'émancipation de ce style de vin. Alors, peu de soufre, même pas du tout de soufre sur les rouges depuis 2010 et les blancs maintenant. C'est un style original. Comme elle dit, je ne fais pas des vins pour tout le monde. Ce sont des vins qui peuvent être un peu irritants pour certains, mais moi j'aime ça. Et elle a une très jolie phrase. Elle dit tout le temps que un raisin bien dans sa peau fait un vin bien dans sa peau.
Merci Antoine Gerbel. Vous l'avez compris, Michel Onfray, évidemment le choix d'Antoine Gerbel n'est pas anodin. Vous êtes normand, oui. Mais on sait votre comment faut-il l'appeler, votre passion, votre amour pour les vins du Jura. C'est une région que vous connaissez bien, notamment dans le Vert.
Non, hélas, je connais pas bien, mais d'abord, le peu que j'en connais, elle m'a paru très belle. Ils ont des fromages formidables aussi, des paysages extraordinaires. Et de fait, c'est un vin qui n'est pas un vin. D'abord, chimiquement, il est assimilable à un vinaigre. Faut pas dire aux gens, mais parce que ils vont avoir peur. Mais je veux dire que c'est un vin qu'ont abandonné ceux qui les produisaient au moment des guerres de religion. Et puis, quand ils sont revenus, et ils ont quitté le village. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé un voile au-dessus de ce vin. Et c'était effectivement des bactéries qui s'étaient transformé en voile, qui avait protégé le vin, qui avait, alors ils se sont dit, bon, évidemment, ça avait du vinaigre, on va acheter tout ça. Ils se sont mis à goûter en disant, mais c'est quelque chose d'autre, tout à fait. Et de fait, c'est un vin dont les caudalies, enfin, c'est-à-dire les effets en bouche. Si vous buvez un vin, puis vous avez quelque chose en bouche, puis ça dure ou ça ne dure pas, ça dure puissamment ou ça dure pas puissamment. Et là, les caudalies du Jura, c'est incroyable. C'est à double ou triple détente. Et vous pouvez très bien, je l'ai fait d'ailleurs avant de partir en Martinique, je m'étais ouvert une bouteille de vin de Jura, j'ai mis un bouchon et je suis revenu un mois plus tard, et j'ai ouvert le bouchon, je me suis servi un verre de ce vin-là, et il n'avait pas été du tout oxydé. Donc c'est un vin extraordinaire. La productrice a raison de dire que c'est pas un vin pour tout le monde, parce qu'il est arrivé que j'en serve à des gens qui me disaient, mais
et oui,
il y a un problème avec cette bouteille.
Mais c'est vrai.
Pas du tout.
C'est une expérience que effectivement vivent beaucoup d'amateurs de vin qui servent du Jura, et ils sont frustrés.
Oui. Moi, je suis très blanc de Jura, c'est-à-dire j'aime bien les rouges, mais leur génie est effectivement dans les blancs. Puis il y a des vins de paille, puis il y a des vins jaunes. Enfin, il y a des choses extraordinaires dans ce pays. Puis ça marche très bien avec un tas de mets auxquels on ne songe pas. Il n'y a pas que le poulet qu'on fait avec le vin jaune, par exemple. C'est très bien, mais ça marche avec un tas d'autres plats. Et c'est une manière très inattendue. Ça peut être servi sur beaucoup de choses. Ça se boit comme un apéritif, mais vraiment, parce que de temps en temps, vous avez l'équivalent de vins qui parfois sont évaporés au soleil au sud de l'Espagne, par exemple. Enfin, tout ça est assez extraordinaire. Et puis, ce sont des gens modestes, discrets, pas frimeurs. Enfin, je ne parle d'aucune autre région, mais j'aime beaucoup cette région, comme j'aime bien les vins du Pays d'Oc, justement, parce que ce sont des vins, comme on dit, d'auteur.
Oui.
C'est-à-dire fabriqués par des gens qui mettent leur subjectivité en disant, moi, j'ai pas envie de savoir si je peux faire des milliers de bouteilles, si le syndicat va me donner l'autorisation d'une appellation, je cherche des cépages, je travaille comme ça, je prends la biodynamie ce qu'elle a à me donner, je prends au bio ce qu'il a à me donner, et puis moi je fabrique ça, c'est-à-dire je sculpte mon vin, et je veux un vin qui me ressemble. Et là, il y a des bonheurs extraordinaires.
Très bien, restez avec nous Michel Onfray, on vous propose une petite séance de cinéma gourmand, celle de Laurent Delmas. Bonjour Laurent.
Bonjour François-Régis.
Aujourd'hui on se fait une grosse bouffe entre copains.
Voilà, je vous propose de rester dans justement le domaine de la convivialité et du partage, hein, à table et au cinéma. Donc c'est tout comme avec le premier très beau film de Bertrand Tavernier, L'horloger de Saint-Paul, qui se passe dans la capitale des Gueules, à Lyon.
Et oui.
La première scène, après un générique intrigant, se déroule dans l'un de ces bouchons lyonnais que nous apprécions tant, vous et moi, François-Régis.
Le Garret.
Tiens, d'ailleurs, on les salue au passage.
Ouais.
Et qui souffrent en ce moment de ne plus pouvoir servir à nos faces rubicondes leur lyonnaiserie savoureuse.
C'était d'ailleurs, précisons-le, C'était le Garret, c'était d'ailleurs la table de Jean Moulin. Chaque jour, il s'y attablait à une table précise à l'entrée à droite du restaurant, absolument.
Exactement, alors on salue les Garret, les Cafés du Jura, les Hugon, les Daniel, les Denise et tant d'autres encore, chers à nos cœurs et à nos papilles. Allez, écoutons là cette scène d'ouverture où Philippe Noiret, l'horloger, vient de réparer la pendule du bouchon où sont déjà attablés ses vieux copains.
Ah, monsieur, je vous remercie de votre délicatesse, vous m'avez attendu.
Ah, plein de bœuf.
Ah, donne-moi mon bœuf.
Alors, elle marche maintenant?
Oui, c'était trois fois rien. Il manque un peu d'oignon, cette salade de bœuf. J'aime bien parce que ça donne bonne haleine. L'oignon, voilà. C'est l'avantage d'être célibataire, messieurs. On peut manger de l'oignon.
Ah bon, on est bon, voilà, c'est bien. Merci.
À la bonne vente.
Bonheur aux aînés.
Ah, ça, c'est gentil.
Il veut des patates, bon Dieu.
L'horloger de Saint-Paul, la première scène avec Philippe Noiret qui parle la bouche pleine allègrement. Hein.
Allègrement, mais c'est d'autant plus important ce repas joyeux qu'ensuite tout ira mal pour cet homme qui aime les oignons. Chez Tavernier, comme chez tant d'autres cinéastes, la table est consolatrice. Quand avec une semaine de vacances, il reviendra filmer Lyon, sa ville natale, il fera de Galabru un patron de l'un de ses bouchons à Mâchon qui tentera par ses petits plats de redonner un peu d'optimisme à Nathalie Baye en pleine déprime professorale. Mais vous savez, François Régis, les noces de la table du cinéma, ben ça date pas d'hier. En 1895, la première année, parmi les 10 premiers petits films que montrent les frères Lumière aux spectateurs ébahis, on compte le repas de bébé, dans lequel on voit manger un solide poupon entouré de ses parents. Et les esprits malicieux ont depuis longtemps remarqué que sur cette même table familiale trône une bouteille de cognac. Preuve si besoin était que chez les frères Lumière, l'apprentissage du bon goût commençait très tôt. Bref, dès la naissance du cinématographe, on sait que la table sera l'un des lieux de tournage. Souvenons-nous de celui que la nouvelle vague appela le patron. Je veux parler de Jean Renoir. Que voit-on dans son chef-d'œuvre, La règle du jeu? Sinon, concentré en un lieu, un petit château, et en un week-end, les relations sociales entre les maîtres et les valets. Et le repas de ces derniers dans les cuisines est un merveilleux concentré d'humanité. Tout se joue autour de cette table de cuisine où la parole est libre. Potins, vacheries, règlements de compte, œillades amoureuses. À table, on peut tous dire et même livrer ses secrets de cuisine, comme le fait à un moment donné le chef cuisinier avec sa salade de pommes de terre. Mm-hmm. Ce secret, hein, François-Régis, je vous le rappelle au passage, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre bouillantes, sinon c'est foutu.
Et oui, ça, les valets dînent. Un dernier film, Laurent, le temps presse un tout petit peu.
Alors, le dernier film, ça sera, eh bien, écoutez, un film ultime. C'est La Grande Bouffe, oui, de Marco Ferreri, dont la musique composée par Sardre reflète bien l'insondable mélancolie sous ses airs chaloupés. À Eros et Thanatos, le cinéaste italien a choisi d'ajouter les agapes finales. Alors, ces héros se mangent littéralement à ne plus que savoir en faire. Ils nous rappellent ainsi que l'excès de consommation va à l'encontre du plaisir des sens et de l'hédonisme. La fable, j'allais dire la table de Ferreri, est terrible. Et le film nous dit que la seule jouissance ne saurait nous satisfaire dès lors que nous nous rêvons gourmets et non pas gloutons.
Merci beaucoup Laurent Delmas. Michel Onfray, que vous inspire cette posture? Alors en un mot, hein, s'il vous plaît, parce que nous arrivons au terme de cette émission, mais cette posture de l'excès à table jusqu'à la mort, le suicide par le plaisir.
Oui, non, moi j'ai détesté ce film. J'ai vraiment détesté ce film. Je ne ferai pas cette lecture-là. Je pense que c'est vraiment l'image du nihilisme de notre époque, quoi. C'est-à-dire il y a une espèce de défaut de valeur et on bouffe jusqu'à mourir, quoi. Et c'est plutôt un éloge de Thanatos. Et là, pour le coup, je ne vois pas quelque chose qui nous permettrait de dire oh, il ne faut pas manger comme ça. Il faut plutôt manger en gourmet. Je ne crois pas. C'est vraiment l'effondrement d'une civilisation qui fait un peu comme dans les orgies romaines que on n'a plus rien d'autre à faire que manger et en mourir.
Merci, elle a la banane, hein, et surtout quand celle-ci est un peu noire, c'est la chronique cuisine d'Elvira Masson.
France Inter, on va déguster.
Elvira Masson qui fait des miracles avec des bananes un peu mûres pour éviter qu'elles finissent à la poubelle.
Un peu mûr, très très mûr, hein. Je sais pas comment je me débrouille, ça a toujours été ainsi. J'adore les bananes, enfin j'adore l'idée d'en avoir chez moi, mais j'oublie systématiquement de les manger. Donc je me retrouve avec un régime un peu flétri en fin de course. Avec cette conséquence, mon congélateur est plein de sacs remplis de morceaux marronâtres. Mais ça va beaucoup mieux depuis que j'ai trouvé deux recettes archi simples qui requièrent justement ces bananes en mauvaise posture. Alors d'abord, des pancakes vegan à la banane. Cette recette est hyper convaincante, je suis pas en train de me jeter des fleurs. Ce n'est pas ma recette, mais celle de Jennifer Art Smith, que l'on connaît bien, qu'on avait reçu dans l'émission, et qui est l'auteur d'un livre formidable édité chez Marabout, qui s'appelle La pâtisserie naturelle. Mm-hmm. C'est elle qui m'a donné cette recette. Ce sont des pancakes dépourvus de matière grasse animale, donc pas d'œuf, mm-hmm, pas de beurre, pas de lait, et en guise d'œuf, notre fameuse banane archimure. Le résultat est d'un moelleux absolument incomparable, tout en étant hyper croustillant sur les côtés. Alors évidemment, c'est un goût de banane prononcé, hein, il faut aimer. Je vous donne le principe hyper rapidement.
Oui.
On mélange d'un côté la farine, le sucre complet, de la levure et du sel dans un bol. Dans un autre bol, on mélange les ingrédients humides, la banane écrasée à la fourchette, un peu de lait végétal, lait d'amande, lait d'épeautre, de l'huile, olive ou tournesol. Moi, j'utilise de l'huile de tournesol. On mélange les deux préparations dans les deux bols au fouet. On rassemble. On laisse reposer au minimum une heure. Plus, c'est mieux. On met de l'huile dans une poêle et on fait cuire ses pancakes comme on le ferait avec des pancakes absolument conventionnels. Et c'est une merveille.
Ah, mais le résultat est absolument incroyable. Je pense que les auditeurs vont se ruer sur votre recette. Preuve qu'on peut piocher de très très bonnes idées dans la cuisine végétalienne. On n'y est pas du tout opposé, évidemment. Surtout quand les stratégies culinaires aboutissent à un vrai plaisir en bouche. Pourquoi pas recycler justement des bananes mûres. Merci beaucoup, Elvira.
Bah, c'est ça. Vous voulez pas une autre petite recette?
Non, on n'a pas le temps, malheureusement, mais elle sera en ligne. Donnez-nous juste l'intitulé.
Bah, c'est une glace à la banane qu'on fait juste avec une banane très mûre mixée et mise au congélateur, c'est tout.
Très bien. Ah oui, carrément. Bah, merci beaucoup.
Oui, vraiment.
On va s'y mettre et on a la banane avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Michel Onfray, d'avoir partagé cette heure avec nous. Ah, et ben, Michel Onfray n'est plus là, mais en tout cas, on le. Ah, merci beaucoup, en tout cas, Michel Onfray, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
On est très heureux d'avoir partagé cette heure avec vous. À très bientôt. Je vous retrouve dimanche pour un nouveau numéro dont on va déguster XXL, consacré à un ingrédient universel, le sel. Et puis on plongera également dans les grands repas de l'histoire de France avec l'historien Loïc Bienassi et notre Jean Lebrun de France Inter. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.